19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Sportrama, l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde. C'est dans un instant et ce sera avec Bagassi Koura. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous propose tout d'abord un bulletin d'information. République centrafricaine, une manifestation d'étudiants a été dispersée par la police de la MISCA à Bangui. Près de 200 étudiants de l'université manifestaient devant la présidence pour la reprise des cours. Les étudiants dénoncent la grève des enseignants du supérieur qui paralyse les cours depuis un mois. L'université de Bangui a réouvert ses portes en février 2014. À la suite de violents combats qui ont eu lieu dimanche autour de l'aéroport de Tripoli, la mission de l'ONU en Libye a annoncé aujourd'hui qu'elle avait évacué temporairement son personnel du pays pour des raisons de sécurité. L'aéroport de Tripoli est fermé pour 3 jours. En Afrique du Sud, le puissant syndicat de la métallurgie, la NUMSA, a durci son mot d'ordre de grève, Lionel Gaïma.
Selon l'AFP, les métallos du syndicat NUMSA ont refusé hier les propositions du patronat. Les ouvriers réclamaient une augmentation de 15% de leur salaire. Dans les marchandages, le syndicat est descendu à 12% pour ce qui a paru déraisonnable pour le patronat qui offrait moins de 10%. Faute d'accord, Irvin Jim, secrétaire général du syndicat, annonçait hier que la grève continue. Elle avait été lancée le 2 juillet. 220 000 travailleurs, plus de 10 000 sociétés sont affectées par ce débrayage. Ce mouvement émaillé de violence et d'intimidation désespère les investisseurs. Le pays sort à peine de 5 mois de grève dans les mines de platine. Et ce mouvement dans la métallurgie a aussi un aspect politique. NUMSA a coupé les ponts avec l'ANC et milite pour un virage plus à gauche de l'économie sud-africaine.
Et toujours en Afrique du Sud, la romancière Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature en 1991 et engagée dans la lutte contre l'apartheid, est morte hier dimanche à l'âge de 90 ans dans sa maison de Johannesburg. Née le 20 novembre 1923, fille d'immigrants juifs venus d'Europe de l'Est, elle a toujours refusé de quitter le pays, même aux heures les plus sombres de l'apartheid.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En France, c'est le 14 juillet, anniversaire du début de la Révolution de 1789. Le président François Hollande a pris part au défilé traditionnel sur les Champs-Élysées, puis s'est exprimé dans une interview télévisée, notamment sur son programme économique.
Il y aura un effort supplémentaire pour les catégories moyennes, même si beaucoup de Français se considèrent dans les catégories moyennes, mais il est légitime que celles qui ont été beaucoup touchées ces dernières années puissent être finalement récompensé. On fera en sorte qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de Français qui payent moins d'impôts.
François Hollande, le chef de l'État français, la fête de la Bastille est la plus importante dans l'Hexagone et elle donne lieu à des célébrations à travers le pays. Les feux d'artifice ce soir à la Tour Eiffel ont pour thème la guerre et la paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé aujourd'hui les convois humanitaires destinés à la Syrie à passer par les frontières extérieures du pays sans l'accord de Damas, ce qui permettra d'aider 1 million de civils dans des zones tenues par l'opposition. Une résolution en ce sens a été adoptée à l'unanimité. Les passages en Turquie, en Irak, en Jordanie. L'autorisation est valable pour 6 mois et devra être renouvelée par le Conseil de sécurité. En Ukraine, la tension continue de monter entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne. Les affrontements ont fait des dizaines de morts rien que ces dernières 24 heures. Rencontre aujourd'hui entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohamed Javad Zarif pour tenter d'identifier les possibilités de progrès vers un accord permanent sur le nucléaire iranien. Hier dimanche, une nouvelle série de négociations entre l'Iran et le groupe 5 plus 1, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, s'est soldée par un échec. Les négociations doivent s'achever dans quelques semaines. Et la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde de football a été accueillie à Buenos Aires par des heurts entre jeunes et policiers près de l'obélisque, ce qui, à l'origine, était un rassemblement pacifique, a vite dégénéré. Peu après la fin du match, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. 50 personnes ont été arrêtées. Dans quelques instants, Sportrama, ce sera avec Bagassi Koura. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama. Et pour participer à l'émission, c'est le 001-202-619-3140. Le numéro de téléphone, c'est le 001-202-619-3140. Avec nous ce soir, nos consultants et notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Gassi.
Oui, et nous avons aussi Jules, hein, Jules Valentin Goué à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Bagassi.
Voilà,
Bonsoir à tous.
Voilà, on essaie de joindre Salif Kabouré à Ouagadougou ou Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin. Nicolas, on commence avec vous. Hein, le Brésil 2014 s'est bien terminé. Et c'est l'Allemagne qui a décroché hier sa quatrième Coupe du Monde en battant l'Argentine de Lionel Messi dans les prolongations, Nicolas.
Et oui, une victoire qui était attendue, mais une victoire qui n'a pas été facile à se dessiner, évidemment, hier soir au Maracana, tant les Argentins se sont révélés meilleurs que prévu. L'Argentine, évidemment, avec sa défense de fer, a posé d'énormes soucis aux Allemands, et il a fallu, vous l'avez dit, aller jusqu'aux prolongations. Mais au bout du compte, et c'est vrai, après l'exploit de la demi-finale contre le Brésil, l'Allemagne est un beau vainqueur et c'est vrai que c'est une belle récompense pour cette équipe allemande entraînée par Joachim Löw que de remporter cette quatrième Coupe du Monde de l'histoire pour les Allemands. C'est un beau succès pour le football.
Oui, un beau succès pour le football. Hein. Et, Jules, comment vous avez vu cette rencontre?
Oui, c'était une rencontre de finale, telle qu'on connaît toutes les finales, où toutes les deux équipes ont leur chance, où la prudence est de mise et on joue un peu au chat à la souris et finalement on attend prudemment de placer sa pique, la pique qui fait la différence. Donc finalement c'est une bonne finale et pour nous, et il est heureux surtout qu'on ne soit pas arrivé au tir au but.
Voilà, qu'on ne soit pas arrivé au tir au but, il faut dire, hein, le match n'a pas été facile parce que Lionel Messi comptait bien sûr entrer dans l'histoire, ce qu'il n'a pas pu faire. On écoute Gernot Rohr, il est allemand, il est sélectionneur du MENA du Niger. Il donne son avis de technicien sur cette finale.
C'était une finale plaisante à suivre, équilibrée, avec la possession de ballon allemande bien entendu, mais ça on le savait. Et une équipe d'Argentine qui a joué le contre. Et ça a donné beaucoup d'intensité, bien sûr, comme il se doit pour une finale. Et avec un beau vainqueur, l'équipe d'Allemagne a bien joué depuis le début de cette Coupe du Monde et mérite bien son titre.
Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe d'Allemagne?
L'équipe d'Allemagne, la force, c'est le collectif, c'est la cohésion, c'est un grand gardien de but aussi, bien entendu, Manuel Neuer, qui a été élu meilleur gardien du monde. Ensuite, là, un bon milieu de terrain qui sait garder la balle. Des joueurs comme Müller ou comme Klose, qui est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde depuis 4 ans. C'est lui qui a marqué 16 buts, donc il détient le record. Ensuite, il y a eu l'entrée de Götze, qui lui aussi, avec un très joli but, technique magnifique, contrôle poitrine, reprise de volée du gauche, a oui. donné la victoire à la Mannschaft.
Alors, la question qu'on se pose toujours, c'est bien sûr le Brésil qui perd 7-1 et ensuite 3-0. Concrètement, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans cette débâcle du Brésil?
Ben, le Brésil, il a perdu pied. Il avait du mal à trouver son jeu depuis le début. Ça a été difficile déjà pour arriver en demi-finale. Et après, il y avait, à mon avis, une trop grande émotivité dans cette équipe. C'était pathétique à voir. On pleurait quand on gagnait, on pleurait quand on perdait, on pleurait quand il y avait un blessé. Il y avait tout le temps de l'émotion, des larmes. Ils se sont mis une trop grande pression. Ils n'ont pas su garder leur lucidité, leur sang-froid, parce que c'est tous quand même des grands joueurs. Mais ils ont perdu pied en équipe. Je crois aussi qu'il y avait un problème peut-être de staff, parce que c'est pas normal que cette équipe du Brésil puisse pas jouer en équipe. Chacun a joué sa partition et ça n'a pas du tout été collectif.
Voilà, c'était donc Gernot Rohr, sélectionneur allemand de l'équipe du Niger. Nicolas, on revient à vous. Vous avez entendu, hein, le Brésil pleurait quand il gagnait, il pleurait quand il perdait. Est-ce que cette défaite de leur grande rivale, l'Argentine, les a un peu consolés?
Ah oui, tous les Brésiliens hier avaient l'impression d'avoir remporté la Coupe du Monde. Ils se sont associés à cette victoire allemande. C'est vrai qu'il y a une rivalité historique entre les deux pays. Et donc, c'est un soulagement, car ça aurait été difficile à porter pour les Brésiliens de voir le grand rival argentin l'emporter à la maison à Rio, au Maracana. Et c'est vrai que depuis l'élimination à Belo Horizonte du Brésil par l'Allemagne, ici, tout le monde soutient les Allemands, évidemment.
Voilà, merci Nicolas Pineau. Jules, vous l'avez entendu, hein, apparemment le Brésil souffrait beaucoup d'une certaine fébrilité moralement.
Si, bien sûr. Et puis, il faut voir l'âge des joueurs qui évoluaient sur le terrain. Et j'ai dit, il a manqué un peu d'expérience dans le groupe. Et aussi, bien sûr, comme l'a dit l'entraîneur tout à l'heure, le collectif était loin d'être huilé. Donc, dans ce cas, il fallait prendre des options tactiques en fonction du matériel qu'on avait. Et c'est ce que l'entraîneur n'a pas pu faire dans la deuxième partie de la compétition.
Hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar.
Voilà, vous écoutez Sporama sur la Voix de l'Amérique, au micro Bagassi Koura. Avec nous, Nicolas Pineau, notre envoyé spécial à Brésil 2014, et Jules Valentin Ngoué, notre consultant football en ligne de Libreville. Nicolas, vous avez suivi cette rencontre, cette petite finale samedi entre le pays hôte et donc les Néerlandais qui l'ont emporté 3-0. Comment était la réaction des Brésiliens?
Bon, ben c'était encore très difficile, Bagassi, sur le plan du jeu. On l'a vu notamment, puisqu'on a beaucoup expliqué la défaite contre l'Allemagne par l'absence de Thiago Silva et de Neymar. Là, Thiago Silva, le capitaine défenseur, était sur
là.
Le terrain.
Oui.
Et après 3 minutes de jeu, il est à l'origine de la faute qui amène le pénalty. Il aurait dû prendre un carton rouge en tant que dernier défenseur. Donc, on voit bien que le Brésil, c'est plus qu'une question de joueur. C'est vraiment, il y a une défaillance collective qui reste encore difficilement explicable ici. Ici, on critique beaucoup notamment le choix de Luis Felipe Scolari de titulariser Fred en attaque. Fred, un attaquant vieillissant qui n'a pas été très prolifique ici dans le championnat brésilien. Donc je pense que les causes sont plus profondes sur cette équipe brésilienne. Et Bagassi, on peut peut-être parler de ce match de la troisième place. Il y a eu une grande critique, évidemment, de Luis Van Gaal, le sélectionneur néerlandais, qui estimait que finalement, ce match ne servait à rien. La petite finale ne sert à rien selon lui, car on est tellement déçu de perdre une demi-finale et de ne pas disputer la finale. Et je suis assez d'accord avec lui. C'est le football, ce n'est pas du basket, ce n'est pas du handball. Et donc, c'est difficile pour les équipes de se motiver sur ce match sans enjeu.
Alors, Nicolas, vous restez avec nous. On me signale qu'on a deux personnes en ligne. D'abord, Élisée Mpatine qui est là. Mais d'abord, nous allons prendre un de nos auditeurs, Galbert Abamako. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Oui, alors on vous écoute.
C'était à propos du match, non?
Oui, allez-y.
Oui, beaucoup sont en train de dire que le Messi ne mérite pas d'être le meilleur joueur.
Oui.
Bon, cela, je vois que. Comme chacun a son point de vue.
Et quel est le vôtre?
Bon, selon moi, il mérite.
Il mérite.
Oui, oui.
D'accord, on va demander à nos consultants, hein, Jules, Lionel Messi qui n'arrive pas à vraiment se montrer une grande performance sur le terrain depuis le début de cette mondiale. C'est vrai qu'il a marqué quelques buts, mais ce n'est pas le grand Messi que tout le monde attendait. Mais finalement, il a eu le trophée de meilleur joueur du tournoi. Jules, vous l'avez suivi, hein, ce tournoi. Quel est votre avis là-dessus?
Oui, moi je pense que ça ressemble un peu aussi à un lot de consolation pour les finalistes. Mais sinon, à mon humble avis, et les deux joueurs qui ont le plus été déterminants sur les résultats de leur équipe sont l'Allemand Manuel Neuer, le gardien, et Robben dans l'équipe du néerlandaise. Donc, je crois que chez moi, le classement serait Neuer, Robben et Messi, ou Robben, Neuer, Messi.
Voilà, Robben Neuer, Messi, ça c'est notre consultant Jules Valentin Ngoué. Il faut dire que le patron de la FIFA, Sepp Blatter, s'est exprimé sur la question aujourd'hui. Lui aussi s'est dit surpris par le choix de Lionel Messi. On retrouve maintenant donc notre correspondant au Bénin. Et Élisée Mpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Bagassi Koura, bienvenue au Bénin.
Voilà. Et à votre avis, c'est Lionel Messi le meilleur joueur du tournoi?
Pas forcément. Là, c'est un choix qui a subi plus d'un, puisque là, nous avons beaucoup de joueurs qui se sont illustrés, notamment le gardien de but allemand Manuel Neuer, et qui vraiment s'est illustré tout au long de cette compétition, puisque lors des éliminations directes, c'est grâce à ses performances que l'Allemagne s'est retrouvée en demi-finale, il faut le dire déjà. En huitième de finale contre l'Allemagne et puis en quart de finale contre la France, nous avons vu un Manuel Neuer dans ses beaux jours. Également en demi-finale contre le Brésil, c'est vrai, l'Allemagne s'est qualifiée facilement, mais aussi n'oublions pas la performance, la grande performance de son gardien de but. Là, Manuel Neuer a une avance, une petite avance sur Robben, Arjen Robben, qui aussi a mené très loin sa formation. Maintenant, Lionel Messi, c'est un choix de la part de ses organisateurs, c'est vrai. Il faut dire que Lionel Messi a été nommé 4 fois homme du match dans cette compétition. Peut-être que c'est suite à cela qu'on l'a nommé meilleur joueur de cette compétition, mais c'est un peu gauche quand on va choisir Lionel Messi. Et apparemment, Manuel Neuer méritait ce prix.
Alors, Nicolas, vous, vous étiez hier à Rio, et vous avez vu Lionel Messi évoluer lors de ce match, de cette finale contre l'Allemagne. Comment est-ce que vous pensez qu'il a, il s'est défendu?
En tout cas, Lionel Messi a fait une meilleure finale que n'a été sa demi-finale, mais c'est vrai qu'il y a évidemment controverse autour de ce choix du meilleur joueur. On va rappeler, Bagassi, que ce choix n'est pas tellement indépendant, puisque... il est décidé entre autres par Adidas, qui est l'équipementier de la FIFA, et Adidas, qui est l'équipementier de Messi. Alors, il faut savoir que depuis la création de ce trophée du meilleur tournoi, Bagassi, tous les joueurs qui l'ont remporté sont des joueurs sous contrat avec Adidas. Donc, c'est vrai que pour la neutralité, ça rend les choses un peu plus compliquées, mais tout le monde s'accorde à dire en tout cas que Lionel Messi est un grand joueur, peut-être actuellement le plus grand joueur de la planète, mais il n'a pas été le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Et on pense évidemment au gardien allemand qui a fait une Coupe du Monde fantastique. Et ça aurait été peut-être plus de panache d'avoir désigné un gardien. On désigne souvent un attaquant ou un milieu de terrain offensif. Ça aurait peut-être été un coup de chapeau à la FIFA de désigner un joueur qui est dans les cages.
Oui, et surtout que cette année, les gardiens ont surtout beaucoup brillé, que ce soit des gardiens africains comme Vincent Enyama ou Boli de l'Algérie. Parlant d'Algérie, il faut dire que Vahid Halilovic est arrivé en Turquie ce lundi pour prendre son nouveau club Trabzonspor. Et l'Algérie, vous vous rappelez, a livré un très beau match contre l'Allemagne. Malheureusement, ils ont perdu 1-0. J'ai donc demandé à Vahid Halilovic s'il avait vu lors de ce match en huitième de finale que l'Allemagne allait aller très loin dans ce tournoi.
Bon, c'est une aventure footballistique humaine, c'est terminé. Il y a d'autres, j'ai promis d'autres personnes pour arriver et entraîner d'autres équipes. Pour ça, je suis fier. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'équipe d'Algérie? Je n'oublierai jamais l'accueil de chaleureux de supporters. C'est quelque chose de fantastique. Ça se paye pas. L'accueil du président de la République, premier ministre et tous les gens qui ont été là-bas. Je n'oublierai jamais cette aventure que j'ai vécue avec l'équipe algérienne. Maintenant, j'ai pris d'autres destinations, c'est comme ça dans la vie.
Et en ce moment, vous êtes à Trabzonspor. Et quelle est l'ambiance?
À Trabzonspor, c'est comme Algérie. Les gens m'ont attendu avec beaucoup, beaucoup de chaleur. Il avait du monde hier soir à l'aéroport. Même il était minuit et demi. Il avait quelques milliers de supporters. C'est à peu près la même chose comme Algérie. Maintenant, il faut se mettre au travail, il faut préparer d'autres challenges, d'autres objectifs qui sont très élevés aussi.
Voilà, donc c'était Vahid Halilovic qui parlait plutôt de son départ d'Algérie et de son nouveau club en Turquie. Nicolas Pino, il faut dire, le Costa Rica, ça a été quand même la révélation de ce mondial.
Eh oui, Bagassi, et c'est aussi pour ça que ce mondial était intéressant, c'est qu'on a vu les grosses écuries comme l'Italie, l'Angleterre ou l'Espagne être éliminées, et finalement cette fraîcheur du Costa Rica qui est parvenue jusqu'en quart de finale malheureusement éliminée, mais c'est vrai que ça a été une belle équipe, et je pense que ça prouve peut-être que l'échiquier international du football est vraiment en train de se rééquilibrer. Hein. On a vu la présence en dehors des poules de trois équipes de la zone CONCACAF, évidemment, notamment le Mexique et les États-Unis et le Costa Rica. Donc c'est vrai que c'était une belle présence des Costaricains, mais malheureusement, ils sont tombés sur une équipe légèrement plus forte et surtout très expérimentée, les Pays-Bas.
Oui, donc parlant donc des équipes africaines, on va suivre le commentaire de Gadiaga. Il est le sélectionneur de l'équipe Pape Boubacar Gadiaga, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal en tant qu'adjoint, bien sûr. Il nous parle de la performance des équipes africaines qu'il a trouvé un peu, qui manque un peu de maturité.
On manque de maturité par rapport aux individualités. Mais le Ghana est une équipe très la preuve contre l'Allemagne, il aurait pu gagner, il a fait un match de très facture. Et on a vu aussi que comme une équipe comme l'Algérie aussi dirigée par un grand tacticien Alilovic. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il ne suffit pas d'avoir des individualités, mais il suffit d'avoir une équipe organisée et qui a envie de jouer les uns pour les autres.
Voilà, donc c'était Pape Boubacar Gadiaga, entraîneur adjoint de la sélection nationale du Sénégal. Jules, on revient à vous. Hein, un mot sur le bilan quand même des équipes africaines. On était cinq équipes, deux en huitième de finale. C'était sans précédent. Mais il y a aussi cette grosse déception que représentaient certaines équipes comme le Cameroun ou même la Côte d'Ivoire. Hein.
Oui, bien sûr, le bilan africain est caractérisé par son inégalité. D'abord, au niveau des statistiques, comme vous le dites, on est heureux d'avoir pour la première fois deux équipes au second tour, mais la catastrophe camerounaise, le clash camerounais avec trois défaites, neuf buts marqués, neuf buts encaissés, un seul marqué, et dénote complètement la Côte d'Ivoire avec un effectif et une équipe, un groupe qui s'est constitué depuis longtemps est incapable de jouer dans la continuité et n'a pas de sérénité collective durable, et alors qu'elle est dans un groupe qui était à sa portée. Non, mais en fin de compte, pour la production de jeux, j'ai toujours été satisfait par l'Algérie et le Ghana, qui, ma foi, ont inquiété, sont peut-être les seules équipes à avoir sérieusement inquiété l'Allemagne avec l'Argentine.
Alors, Élisée, hein, au Bénin, quelle est l'équipe qui vous a le plus déçu parmi les cinq africaines?
Naturellement, hein, Bagassi, c'est bien sûr les Lions Indomptables du Cameroun, hein, puisque suite à une très belle préparation, surtout avec ce match nul, 2-2 contre les futurs vainqueurs de cette compétition, et même si face à la Moldavie, c'était pas un match très intéressant, mais on attendait forcément ces Camerounais au second tour, ou dans un groupe où il y a le Mexique ou encore la Croatie, c'est vrai, c'est un groupe un peu relevé, mais les Camerounais pouvaient mieux faire. Mais compte tenu de ce que vous savez, bien, cette équipe est totalement passée à côté de son sujet. C'est une grande déception. Et à quand maintenant du sérieux dans le rang des équipes africaines, on attend de voir.
Oui, on attend de voir. C'était donc Élisée Mpatine à Boïkon au Bénin. On prend un de nos auditeurs, Idrissa Akibé en RDC. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, alors votre commentaire sur Brésil 2014?
Oui, Brésil 2014, je dirais que je commande premièrement la demi-finale qui a opposé le Brésil avec l'Allemagne.
Oui, allez-y.
Oui, je dirais que Neymar nous a manqué car nous avons perdu grâce aux les Allemands ont emporté car ils nous ont frappé très fort. J'ai compris qu'un seul joueur peut causer à cette équipe qui s'échouer.
Alors, si on vous comprend bien, si Neymar avait joué contre l'Allemagne, qui allait gagner exactement?
Oui, c'est l'Allemagne qui aurait emporté avec ses buts à 1.
L'Allemagne allait battre le Brésil?
Oui, c'est l'Allemagne qui aurait battu le Brésil.
Oui, mais et si Neymar avait joué pour le Brésil, ce serait possible?
Oui, serait possible car les Allemands ne allaient pas partir comme cela avec 7 buts en 0, avec 7 buts en 1. Cela nous a choqué au cœur à cause de l'absence de Neymar.
Oui, D'accord, merci, merci infiniment de nous avoir appelé, Idrissa, de la RDC. Nicolas, on revient à vous. Hein. Donc, il y a ce joueur James Rodriguez qui est en tête du palmarès des buteurs cette année.
Eh oui, tout à fait. 6 buts pour le goléador colombien qui a réussi, et ça c'est un exploit, il faut quand même le souligner, Bagassi, à faire oublier la blessure de Falcao, le grand attaquant colombien, oui. Qui évidemment était absent, forfait de ce mondial. Et James Rodriguez, qui joue actuellement à l'AS Monaco en France, on peut lui promettre évidemment un bel avenir. Et par exemple, on parlait tout à l'heure du meilleur joueur du tournoi. Pour moi, il aurait fait aussi évidemment partie des favoris pour ce titre. Quel but fantastique, évidemment, on se souvient de ses chevauchées. Et c'est vrai que ce joueur tout jeune, hein, ce joueur tout jeune nous a vraiment surpris et a démontré toutes ses qualités.
Voilà, vous suivez Sporama sur la Voix de l'Amérique au micro Bagassi Koura. Nous avons aussi notre envoyé spécial Nicolas Pino et nos correspondants sur le continent. Voilà, Élisée, on revient à vous. Hein. Vous avez suivi donc pendant tout un mois ce mondial. Quelles sont aujourd'hui vos impressions? Est-ce que il y a des points qui vous ont déçu ou vous pensez comme beaucoup de gens que c'est le mondial le mieux réussi de l'histoire?
On peut dire comme cela, hein, puisque en matière de but, vous le savez très bien, hein, cette Coupe du Monde a pratiquement égalé et celle de 1998 avec un record de buts marqués, 171 buts, beaucoup de buts inscrits tout au long de cette compétition. Nicolas le soulignait avec des très grandes révélations, j'allais dire, notamment James Rodriguez ou encore cette sélection costaricaine, hein, faut le dire, c'est une Coupe du Monde qui a vu pratiquement des équipes hein, qui se sont faites révéler tout au long de cette compétition. Et là aussi, nous avons vu une équipe brésilienne qui n'était pas du tout préparée pour aller remporter cette compétition. C'est vrai, c'est un groupe très jeune. Il fallait ajouter quelques anciens, quelques joueurs expérimentés, ce que Scolari n'a pas fait. L'Allemagne qui a tenu son rang avec une équipe mature, hein, avec beaucoup d'intelligence, j'allais dire. L'Allemagne qui a toujours dompté son adversaire, hein, et aussi l'équipe des Pays-Bas qui aurait pu se qualifier pour la finale, hein, mais c'était sans compter sur une grande formation d'Argentine qui ne s'est plus qualifiée pour une finale, hein, d'une compétition depuis 1990. Globalement, ce sont les Européens et les Américains qui se sont encore illustrés dans cette compétition, les Africains et surtout les Asiatiques, hein, qui ont complètement déçu. Aucun représentant au second tour, voilà un peu ce qu'on peut retenir. C'est une Coupe du Monde qui m'a beaucoup impressionné avec beaucoup de buts marqués tout au long de ces un mois.
Voilà, Nicolas, vous avez été notre envoyé spécial au Brésil pendant tout ce mois. Avant le début donc de la compétition, on avait parlé des questions, des problèmes d'organisation. Il y avait même des manifestations quand vous arriviez au Brésil. Aujourd'hui, on est au lendemain du mondial. Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que c'est un pari réussi pour le Brésil?
C'est un pari réussi, évidemment, Bagassi. Alors, cela n'occulte pas les problèmes quotidiens des Brésiliens, notamment en matière de santé et d'éducation. Mais c'est vrai que sur l'organisation, sur les transports et sur la sécurité, aucun incident majeur à signaler, avec évidemment ce gros point noir, cependant, à Belo Horizonte, avec l'accident qui a coûté la vie à deux personnes dans un pont qui s'est effondré. Mais globalement, tous les touristes qui ont été là, et 700 000 touristes se sont présentés au Brésil au mois de juin, c'est plus de 132% de plus que par rapport à l'année dernière, à la même époque. C'est une fête réussie et c'est important car Bagassi, vous savez que le Brésil va organiser en 2016 les Jeux Olympiques d'été ici à Rio, un message très fort envoyé au monde.
Et il faut souligner aussi, Nicolas, hier, vous l'avez remarqué, la présidente Dilma Rousseff qui s'est fait huer.
Et oui, tout comme Sepp Blatter, hein, il y aura des élections au mois d'octobre ici au Brésil. Et évidemment, la défaite brésilienne a en plus renforcé peut-être ce sentiment contre la présidente. Mais encore une fois, la Coupe du Monde a été un succès, pas de problème évidemment énorme, mais les problèmes sociaux demeurent au Brésil et ça reste une réalité.
Voilà, merci à Nicolas, notre envoyé spécial au Brésil. Et donc, c'est la fin de cette édition consacrée à la Coupe du Monde. Merci à Nicolas Pino à Rio de Janeiro au Brésil. Merci à Jules Valentin Ngwe et à Élisée Mpatine. C'était Bagassi Koura. Merci de nous avoir suivis. Invitamos a todo el mundo a jugar.